Radio Prague, les informations.
Bienvenue sur Radio Prague. Le nouveau ministre de l'Industrie et du Commerce sera nommé mercredi prochain. L'économie tchèque est au bord de la stagnation selon sa croissance au troisième trimestre. Sortie en salle française d'une trop bruyante solitude 16 ans après son tournage. Mercredi prochain, Martin Kuba devrait être nommé par le président de la République Václav Klaus, nouveau ministre de l'Industrie et du Commerce. Comme annoncé mardi après-midi par le porte-parole du gouvernement, Martin Kuba a été désigné par le premier ministre Petr Nečas. Martin Kuba est à la tête du parti civique démocrate ODS dans la région de Bohême du Sud. Il remplacera Martin Kocourek de l'ODS qui a démissionné du poste de ministre de l'Industrie et du Commerce suite aux révélations sur d'importantes sommes d'argent qu'il avait placées sur le compte bancaire de sa mère. Au cours du troisième trimestre, l'économie tchèque a enregistré une croissance de 1,5% par rapport à la même période de l'année dernière. Il s'agit d'une stagnation comparée au deuxième trimestre de 2011. Ce résultat publié ce mardi par l'Office tchèque des statistiques est plus pessimiste que les prévisions des analystes. Les économistes s'attendent à un ralentissement de l'économie tchèque au cours du quatrième trimestre de 2011 et en 2012 comme conséquence de la situation dans la zone euro. Pour 2012, nous avons prévu une croissance minimum de 0,3%, mais l'évolution au sein de la zone euro indique la possibilité d'une croissance négative, a précisé l'analyste de la Raiffeisen Bank, Michal Broschka. Le ministère des Finances prévoit pour 2012 un taux de croissance économique inférieur à 1%. Les ministres de l'Éducation tchèques, slovaques, hongrois et polonais se sont mis d'accord sur la formation d'un groupe de spécialistes chargés de la mise en œuvre des réformes de l'enseignement supérieur dans leurs pays respectifs, réunis au sein du groupe de Visegrad. La décision a été prise lors de la réunion des ministres de l'Éducation du groupe V4, tenue ces lundi et mardi à Olomouc, en Moravie du Nord. Le groupe d'experts devrait également élaborer un programme de bourse qui devrait permettre aux étudiants tchèques, slovaques, polonais et hongrois d'accéder aux meilleures universités mondiales. Film malchanceux, une trop bruyante solitude adaptée du roman éponyme de Bohumil Hrabal et victime d'un producteur véreux, sort le 16 novembre en salle française et offre l'occasion de revoir Philippe Noiret dans un rôle inédit. Tourné en 1995 en français à Prague par la réalisatrice Viera Zaizova, le film n'a été achevé qu'en 2010. D'après Viera Zaizova, il a fallu 14 ans de combat avec l'aide de la Société des auteurs dramatiques pour récupérer les droits internationaux du film. Malgré la décision du tribunal, le producteur français ne me restitua jamais les éléments matériels du film, a expliqué la réalisatrice tchèque installée en France. La tchèque Petra Kvitová, qui a terminé la saison en trombe, a été désignée lundi joueuse WTA de l'année par un jury de journalistes, a annoncé la Fédération internationale du tennis féminin. Âgée de 21 ans, Kvitová, qui a également été récompensée comme joueuse qui a le plus progressé cette année, a notamment remporté son premier Grand Chelem à Wimbledon avant de s'adjuger le Masters et de conduire son pays à la victoire en Fed Cup. L'équipe de République tchèque de football dispute ce mardi soir à Podgorica le match retour des barrages qualificatifs pour la phase finale de l'Euro 2012 contre le Monténégro. Vendredi dernier, en match aller joué à Prague, l'équipe tchèque s'est rapprochée de la qualification en battant le Monténégro 2-0. Côté météo, mercredi, jour de la fête des Hautes-Mares, le ciel sera nuageux à couvert avec un soleil plus généreux dans la partie sud-est du pays. Les températures restent très fraîches en journée et se situent entre 2 et 6 degrés pour les maximales. C'était les informations de Radio Prague par Magdalena Rosinkova.
Faits et événements en République tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci donc à Magdalena pour ce bulletin d'information et puis bienvenue à vous à l'écoute de l'actualité tchèque sur Radio Prague. Au sommaire de cette actualité tchèque figure tout d'abord la qualité de l'air, ou plus précisément sa mauvaise qualité. Depuis plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, dans certaines régions, la République tchèque étouffe sous le smog. Plus de détails dans quelques instants. Il sera aussi question de culture dans les 20 prochaines minutes avec des Français dont les œuvres sur l'inversion de la réalité sont actuellement exposées à la Meat Factory, centre de l'art contemporain tchèque et d'expérimentation artistique. Et puis la seconde partie de ce programme sera consacrée à la rubrique du jour, à savoir un panorama dans lequel parole sera donnée à un producteur, organisateur depuis de nombreuses années de concerts de groupes tchèques en France. Très bonne écoute. Comme annoncé en titre, l'air devient de plus en plus irrespirable dans certaines régions de la République tchèque. Le phénomène d'inversion, qui forme une sorte de couvercle maintenant la pollution à très faible altitude, dure en effet depuis plusieurs jours une véritable purée de poids nocive pour la santé. Les enfants, les personnes âgées ou les malades ont comme consigne de limiter leur sortie, ce qui n'est pas le cas d'Alexis Rosenzweig, l'auteur de ce reportage.
Sur un pont au-dessus de l'artère principale qui traverse Prague, l'association Assistance a décidé de suspendre une banderole sur laquelle sont inscrits les mots « Les voitures étouffent Prague ». À cause du smog, la visibilité, même à 11h du matin, est très réduite. En ce mois de novembre, la situation est dramatique, d'après Eric Cipera, qui milite dans cette association.
C'est dingue, j'ai jeté un coup d'œil sur la carte de la pollution dans le pays. La semaine dernière, c'était au rouge. Les limites étaient déjà dépassées, mais ce matin, c'était déjà la couleur grise, qui signifie qu'il y a dans l'atmosphère deux fois plus de particules polluantes que la limite autorisée. Et la ville ne fait rien. Aucun appel aux automobilistes pour ne pas qu'ils prennent leur voiture. C'est notre air à tous et nous attendons davantage de la ville dans laquelle nous voulons vivre.
Des appels comme celui-là pour ne pas prendre la voiture en cette période de forte pollution, il y en a quand même eu dans plusieurs villes, comme à Pardubice. Car en ce mois de novembre, c'est l'ensemble du pays qui a été touché. Et comme d'habitude, c'est la Moravie, la région très industrialisée de l'est de la République tchèque, qui est la plus polluée. Peter Kainar, le maire de la ville morave d'Ostrava, tente de faire bouger le gouvernement en portant l'affaire en justice.
Il faut que les limites soient plus sévères et il est important de permettre aux groupes industriels de moderniser leurs technologies en les aidant fiscalement ou avec des aides européennes pour ne pas qu'ils soient pénalisés par la concurrence de la Pologne voisine. En ce qui concerne la circulation, en temps de smog, il est important de la limiter. La loi actuelle n'est pas satisfaisante et doit être revue. Et puis il faudrait que d'ici 20 ans, nous roulions en voiture électrique. Si nous continuons avec des véhicules à moteur à explosion, on n'en sortira jamais.
Cette année, la situation est assez exceptionnelle parce que le phénomène d'inversion est plus long que d'habitude. C'est ce qu'explique le météorologue Peter Dvořák. La couche d'inversion bloque toutes les particules polluantes, issues notamment des cheminées et des pots d'échappement, qui stagnent et forment un épais brouillard nocif pour la santé. Radim Shram dirige le département d'écotoxicologie génétique de l'Académie tchèque des sciences.
C'est un problème grave parce que la population est touchée à long terme par ce phénomène d'inversion. Les séquelles peuvent rester pendant des dizaines d'années et s'inscrire dans l'ADN avec différentes maladies qui peuvent durer longtemps après avoir respiré cet air pollué. C'est la raison pour laquelle je pense que c'est un problème terriblement grave dont le gouvernement devrait s'occuper.
Et le gouvernement tchèque, sous pression, tente de trouver des solutions. Un nouveau projet de loi permettant de limiter les émissions polluantes vient d'être présenté aux députés.
On passe à la culture, la Meat Factory, atelier du célèbre sculpteur contemporain David Tcherny, accueille depuis jeudi dernier et jusqu'au 12 janvier prochain une exposition appelée Scénario Stratégie. Regroupant des artistes français, suisses et tchèques, l'exposition présente des œuvres dont le thème est axé sur l'inversion de la réalité. Plus de précisions avec Jean-Sébastien Letton.
Centre névralgique de l'art contemporain tchèque, la Meat Factory est une usine désaffectée située dans le quartier pragois de Smíchov. Présentée comme un lieu d'expérimentation artistique, elle est placée sous le patronage de plusieurs artistes modernes tchèques, dont le célèbre sculpteur David Tcherny. Ce dernier est d'ailleurs très connu du public tchèque. On lui doit notamment des réalisations telles que la statue de Venceslas dans le passage Lucerna, ou encore les bébés qui semblent grimper le long de la tour de la télévision à Jijkov. C'est donc dans ce centre d'art que se tient actuellement l'exposition Scénario Stratégie. Elle est réalisée en partenariat avec, entre autres, l'Institut français de Prague, ainsi que les Fonds régionaux pour l'art contemporain, ou FRAC, de Poitou-Charentes et de Franche-Comté. Scénario Stratégie propose avant tout des photographies, mais également quelques installations, ayant pour point commun de présenter une vision alternative de la réalité, non sans humour, et ainsi de revendiquer une construction narrative remettant en cause la perception humaine. Nous avons rencontré Arnaud Colcombe, plasticien français qui, en parallèle de Scénario Stratégie, expose à la Meat Factory une de ses œuvres. Il nous la présente.
Je présente une sculpture qui s'appelle Drawing a Circle in a Square, et en fait barré ça, avec la présentation et le drapeau, le titre. Alors pourquoi ? Pour expliquer un peu l'historique de ça, Drawing a Circle in a Square, c'est un peu un point de vue ironique sur le minimalisme en fait, dans le sens où la galerie dessine, c'est un cube qui fait 10 mètres d'arête, et donc je présente une sculpture qui a un trépied sur lequel il y a une poutre, et sur cette poutre, il y a un ventilateur en fait qui est branché. Donc ce ventilateur fait tourner la poutre. Donc en fait, dessine un cercle, et j'ai ajouté en fait un drapeau à l'opposé du ventilateur sur la poutre. Donc ce qui permet d'avoir un drapeau en fait qui tourne en rond, mais qui prend le vent aussi. Donc l'idée par rapport au drapeau, c'est une espèce de drapeau pastiche du drapeau européen, on va dire, dans le sens de construction européenne en fait, qui tourne un peu en rond. Et voilà, moi, artiste français qui vient en échange, exposé à Prague, faire un lien en fait quelque part avec la culture, voilà, un lien dans un réseau européen, simplement.
Arnaud Colcombe réalise des sculptures minimalistes, dans lesquelles il injecte toujours une dose d'humour et de dérision. Il entend ainsi créer une distance et susciter une réflexion. C'est une prise de position burlesque et consciente qui lui plaît chez les artistes contemporains tchèques.
Il y a plusieurs choses en fait, parce qu'il y a des mouvements qui étaient très très sobres en fait, basés sur des actions politiques très simples, quasiment invisibles. Après, avec une certaine forme d'engagement, mais ce qui me plaît surtout, c'est le ton en fait, le ton un petit peu burlesque ou humoristique de la scène tchèque, voilà, dans laquelle je me retrouve tout simplement.
Mais l'exposition, comme c'est souvent le cas dans l'art contemporain, peut sembler hermétique. Arnaud Colcombe nous confirme le caractère cérébral de ce type d'art, mais tout fait part aussi de son optimisme en ce qui concerne la scène artistique européenne actuelle.
Je la trouve très cérébrale en fait, c'est très référencé sur une histoire de l'art, très cérébrale, c'est quelque chose qui m'intéresse mais qui demande d'être un peu initié à tout ça. Ensuite, je la trouve plutôt dynamique, en fait. Je trouve que l'Europe commence à se mélanger de plus en plus. Les artistes sont de plus en plus, en fait, dans toute l'Europe. Je trouve ça très positif à ce niveau-là. La sculpture, en tant que telle, invente, du coup, de nouvelles formes, en fait. Et je pense que c'est une scène assez dynamique. Bon, après, c'est une situation qui reste européenne. C'est-à-dire qu'une position d'artiste européenne qui est très, comme je le disais, référencée en opposition avec une scène américaine qui est beaucoup plus spontanée, en fait, dans une production beaucoup plus importante. Et après, des artistes, voilà, qui viennent d'Asie, qui sont aussi dans une problématique beaucoup plus centrée sur des points de vue politiques ou culturels, qui, à mes yeux, n'ont pas assez pris conscience, en fait, de l'histoire de l'art, en fait, d'un point de vue général. Mais bon, bref, ça, c'est un point de vue très, très personnel.
Il s'agit donc d'une bonne occasion de découvrir ces nouvelles tendances dans le domaine artistique, qu'ils soient tchèques ou plus largement européens.
Voilà, c'est la fin de ces faits événements. Merci de votre attention. Merci également de rester encore quelques instants en notre compagnie pour la suite de notre programme. Comme chaque mardi, la suite de ce programme est consacrée à la rubrique Panorama et rencontre aujourd'hui dans cette rubrique avec Irgi Smetana. Son nom n'est pas forcément très connu et pourtant, Irgi Smetana est une des personnalités très importantes du monde de la culture et notamment de la musique, et ce à la fois en France et en République tchèque. Alors, à travers sa carrière, Irgi Smetana nous offre un témoignage sur les années 1960 en Tchécoslovaquie, le développement de la culture rock à l'Est comme à l'Ouest dans les décennies suivantes, et nous livre quelques anecdotes qui sont devenues des moments cultes de l'histoire du rock tchèque. Une rubrique préparée par Anne-Claire Veluire.
Panorama.
Panorama.
Auteur, compositeur, DJ, programmateur musical du célèbre club parisien Le Gibus et producteur, Jerzy Smetana, sans être forcément connu du grand public, a marqué l'histoire de la musique rock à la fois dans les pays tchèques mais aussi en France. Tout commence donc dans les années 60 dans la capitale tchèque. Jerzy Smetana.
Avant tout, les années 60, c'était la décennie de l'explosion du rock anglais. C'était la fin du rock'n'roll américain. Et c'était, j'avais de la chance d'avoir 20 ans et vivre cette période-là. Et c'était quelque chose incroyablement frais et original parce qu'à l'époque, avant le rock'n'roll, il y avait du jazz. Il y avait pas comme aujourd'hui déjà les groupes de rock imitent les groupes de rock du passé, mais à l'époque il y avait pas possibilité d'imiter les rock, le groupe rock avant parce que ça n'existait pas, sauf quelques exceptions, blues. Etc. Alors je vivais à Prague et il y avait à la radio, on n'entendait pas cette musique là, mais avec s'il y avait des bonnes radios, quelques personnes pu capter Radio Caroline et surtout la radio Luxembourg, surtout en la nuit parce que le jour c'était brouillé, surtout parce qu'il y avait des actualités politiques, etc. Et ici j'avais des amis qui ont fabriqué à la maison les amplis. Il y a une certaine usine tchèque qui fabriquait les guitares électriques pour l'exportation. C'est assez anecdotique que la première guitare de George Harrison était la guitare tchèque. C'est quand même drôle que les premières chansons de Beatles, il répétait à Hambourg sur sa guitare tchèque Futurama. Et on commençait à composer des chansons avec les groupes tchèques et avec les paroles anglais. Et à l'époque, je faisais au lycée, je faisais anglais, mais je connaissais peut-être 200, 300 mots en anglais, et avec ce vocabulaire, j'écrivais des textes, des chansons qui, c'était naïf, mais ça sonnait. Il y avait une sonorité qui nous a plu à l'époque. Même aujourd'hui, ça, je réécoute.
Alors, vous avez écrit beaucoup de chansons dans votre vie, ou en tout cas quelques chansons assez importantes, mais vous avez commencé à écrire pour quel groupe ?
C'était le groupe de Prague qui s'appelait The Matadors. À l'époque, c'était, pendant un moment, c'était le groupe le plus important de Prague. C'était dans les années entre 66 et 68, c'était le meilleur groupe de Prague, tchécoslovaque.
Les années 60 sont toujours décrites comme des années de grande liberté, surtout la fin des années 60 ici en Tchécoslovaquie, où des années d'effervescence culturelle, on va dire. Comment vous les avez vécues, vous, cette période ?
Quand on est jeune, on se préoccupe surtout par les plaisirs de la vie. Et je peux dire que j'ai de très bons souvenirs à cette époque-là, que on se moquait plus ou moins du pouvoir. Il n'y avait pas énormément de répression, mais ça n'empêche pas. C'était pas si simple que ça si on voulait sortir de la Tchécoslovaquie. C'était possible à l'époque, mais il fallait avoir invitation de l'extérieur qui était confirmée officiellement. Et si on quittait, si on partait, on nous donnait pour notre voyage quelque chose comme 40 francs français, ce qui est quelque chose comme 10 euros. C'est quelque chose de ridicule pour un séjour de plusieurs semaines à l'étranger. Et on pouvait quitter le pays maximum pour 3 mois. Après, il fallait revenir. Ce n'était pas possible de rester plus longtemps à l'extérieur. Mais c'était possible. Tout ça, ce n'était plus possible à partir de 1970.
Entre 1968 et 1970-71, pour le monde de la musique ici, c'est quand même un tournant, puisque, et puis pour la société tchécoslovaque en général, c'est là que le régime justement se durcit. Comment vous, dans le monde de la musique, vous avez vécu ce moment-là avec les Matadors ou avec d'autres groupes ?
Donc le Matador, ça a splitté parce qu'une partie du Matador s'est partie pour l'Allemagne. Ils jouaient dans le musical Hair, et puis ils sont restés là-bas, ils ont commencé à fonder ses propres groupes, et voilà, ils sont fondus avec la culture allemande, avec le rock allemand. Et l'autre partie qui restait là a formé un groupe qui s'appelait Blue Effect. Et après, ils étaient obligés de changer leur nom à Modri Effect, parce que c'était interdit, ça s'appelait Blue Effect. Je pense que pour la musique, à Prague, la meilleure année, c'était 69. Parce que même si les armées étaient déjà ici, ils se préoccupaient surtout de côté les politiciens, des journalistes, ils s'occupaient pas encore de musique. Ils avaient d'autres soucis à faire. D'abord, ils ont nettoyé tout ce qu'il y avait dans l'administration, dans les radios, dans les médias politiques, mais la musique, ça venait peut-être 70-71. Et après, ça avait été vraiment, vraiment dur, parce que chaque musicien devait passer, pour pouvoir jouer, il fallait passer par les examens devant une jury qui était fait par les vieux communistes, etc., qui posaient des questions sur l'idéologie. Il fallait connaître quand est-ce qu'il y avait réunion des partis communistes, quelle année-là, qu'est-ce qu'il y avait comme but de cette réunion. Il y avait des questions absolument insensées que les jeunes musiciens devaient répondre. C'est vraiment humilié pour pouvoir essayer le tampon de pouvoir exécuter la musique. Et en plus, la maison de disques commence à sortir les disques uniquement en tchèque. Et, par exemple, je sais que j'arrêtais parce que j'écrivais des chansons en tchèque, mais mes paroles tchèques, j'étais d'abord obligé de donner aux censures qui devaient donner tampon, que c'est possible qu'on peut les enregistrer. Alors des fois, quand je parlais de la grisaille, quelque chose de triste, non, il faut dire, non, c'est trop triste, c'est sordide, on peut pas le faire. Et on donnait à notre parolier qui a fait plus optimiste, etc. C'était horrible.
Marié à une Française en 1970, Jerzy Smetana quitte le pays en 1972, exaspéré par les tracasseries administratives que lui impose le régime à chacun de ses voyages. Il se lance en France dans la chanson, mais c'est au Gibus, célèbre salle de concert parisienne, qu'il entame sa deuxième carrière.
Au début, pendant 7 ans, j'étais DJ. Entre 73 et 80, j'étais DJ. Alors, j'adorais cette période. Parce qu'à l'époque, il y avait uniquement 4 radios, finalement, en France, qui étaient très occupées. C'était France Inter, RTL et Europe, avec Monte Carlo. Et là-bas, la musique était absolument commerciale. Donc même les groupes comme The Who, Led Zeppelin, ça passait pas à l'antenne. Alors j'étais heureux que je pouvais... J'avais de la chance que dans le club que j'ai travaillé, je puisse passer ce que je veux. Alors si ça me faisait plaisir, je passais une chanson que j'aimais 25 fois... dans la soirée, et la clientèle qui venait, les gens qui venaient, ils aimaient bien la musique de rock, donc ça fonctionnait parfaitement entre nous. En plus, j'avais de très bonnes relations avec toute la maison de disques, qui était content qu'il y ait à Paris au moins un endroit où ils peuvent diffuser sa musique tous les jours, donc j'avais le privilège d'avoir beaucoup de disques avant-première. Non, c'était une très bonne période.
Et c'était au Gibus déjà ?
C'était au Gibus.
Alors effectivement, jusqu'avant 1980, il n'y avait pas les radios libres, donc il y avait moins de radios, mais il y avait quand même un monde qu'on appelle de l'underground musical en France qui se développait. Comment vous vous êtes trouvé en contact avec eux? Comment vous avez réussi à...
Mais c'était assez facile parce que finalement, c'est eux qui venaient me voir, parce qu'à Paris, il y avait seulement 2 endroits où on pouvait jouer. C'était Golf Droit, qui fonctionnait uniquement le week-end. Et c'était pas cosmopolite, parce que c'était très franchouillard dans le mauvais sens de mot. C'était plutôt style Johnny, etc. Tandis que au Gibus, c'était ouvert au groupe anglais. Des fois, quand ils faisaient les grands concerts à Paris, après le concert, ils venaient au Gibus pour faire les jam sessions. Et il y avait même les groupes, donc je veux pas dire qu'il y avait quelques anglais, il y avait plein de français aussi qui venaient après le concert. Mais c'était plus ouvert, c'était vraiment club de musiciens qui... Il n'y avait pas grand mot en semaine. Justement, en semaine, surtout les gens qui venaient, c'était les musiciens. C'était les musiciens, et même le week-end, c'était plutôt les gens qui travaillaient dans la journée, la semaine, donc ils venaient pour le week-end, parce que ça ouvrait à 10h du soir. Le concert était vers 1h du matin, jusqu'à 2h, et après c'était ouvert jusqu'à 5-6h du matin.
Est-ce que vous continuez à suivre ce qui se passait en Tchécoslovaquie en même temps?
À l'époque, oui, mais ça me déprimait. C'était très déprimant parce que les gens ne savaient pas. Ils pouvaient, c'est pas ce qu'ils savaient pas. Ils rêvaient. C'est que je vivais ce qu'ils rêvaient. Et quand je venais, étant donné que c'était officiellement sorti, donc je pouvais. Bon, pendant 7 ans, je suis pas venu. Pendant 7 ans, j'ai pas retourné en Tchécoslovaquie. Mais quand j'y suis venu, finalement, j'ai pas beaucoup raconté ce que je vis là-bas, parce qu'ils pouvaient pas vivre ça. Plutôt, j'écoutais ce qu'ils me racontent, ce qui me déprimait. Mais j'apportais des disques, quand même, il y avait certains disjockeys à qui j'ai régulièrement envoyé les disques qui sortaient à l'Occident, ils ont fait des discothèques privées où ils passaient ces disques-là comme Jiří Černý, etc. Mais c'était triste.
Alors pour terminer, nous vous donnons à écouter une des chansons tchèques les plus connues, dont le texte a été écrit par Jiří Smetana. La chanson date de 1970, elle est interprétée par le groupe Blue Effect et s'intitule Slunečný hrob, ce qui veut dire le cercueil ensoleillé. Elle est devenue un symbole du désarroi provoqué par l'invasion des chars soviétiques et l'écrasement du printemps de Prague en 1968.
Usínám a chtěl bych se vrátit o nějaký ten rok zpátky, teď zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
Voilà, et précisons encore que la seconde partie de cette émission proposée par Anne-Claire Veluire et consacrée au producteur Jiří Smetana sera présentée la semaine prochaine, toujours dans la rubrique Panorama. En attendant, c'est la fin de ce bloc actualité préparé par la rédaction française de Radio Prague. Merci encore de votre attention et de votre fidélité et à très bientôt de nouveau à l'écoute. Ahoy.